Eh bien, bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Ça va bien ce soir ?
Oui.
Oui, j'espère que ceux qui nous écoutent sur Internet vont bien aussi. Je pense que oui. Et si ça ne va pas, on va prier pour vous, que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Seigneur Jésus, veuille nous fortifier dans notre foi, nous aider à comprendre ta parole pour que nous puissions saisir les bonnes choses que tu as à nous dire afin que nous ayons une bonne vie. Merci, mon Dieu, de ne pas nous laisser dans un brouillard de confusion, de religiosité, mais que notre foi soit pragmatique, basée sur les Écritures, sur la direction de ton esprit, parle à nos cœurs, à nos intelligences. Merci Jésus. Amen. Alors, je vais vous faire une lecture dans Proverbes 31, 10 à 18. Qui peut trouver une femme vertueuse ? En ce moment, on se demande, hein ? Ça devient de plus en plus difficile, hein ? Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, et elle donne de la nourriture à sa maison, et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. On va arrêter là, le chapitre est encore long, mais avec ça déjà, il y a beaucoup, 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 beaucoup à dire. Dans notre époque, nos pensées, frères et sœurs, sont sollicitées par toutes sortes de trucs. Des milliers de choses qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps, hein. Des ondes qui sont envoyées tout autour de la planète, et si notre conscient ne les perçoit pas, il faut bien vous dire que notre esprit, lui, les perçoit. On est sans arrêt traversé par toutes sortes de choses qui perturbent beaucoup. La difficulté que les gens rencontrent est due surtout en grande partie aux idées confuses. Et de plus en plus, il y a des idées confuses. La plupart des gens d'aujourd'hui, ils ignorent ce qu'ils veulent vraiment. Ils ignorent. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Quelles sont leurs véritables préférences, tout ça. Nous sommes entraînés par des gens, par des choses qui perturbent nos pensées. Et puis l'Internet, qui est un instrument extraordinaire, la preuve, je vous parle par Internet. Mais c'est peut-être une chose qui nous perturbe terriblement. Il y a des choses terribles là-dessus. Et puis, ce sont des ondes quand même qui aussi sont quand même nocives. Il ne faut pas être trop là-dessus. La tâche du disciple de Jésus consiste à découvrir les lois de la nature qui peuvent l'aider, vous êtes d'accord ? Et puis, les lois de l'esprit qui peuvent l'aider aussi. On a découvert que dans la nature, il y a des choses qui sont nocives et on ne les mange pas, par exemple. Hein ? Voilà. Il faut découvrir les lois de la nature et les lois de l'esprit. Parce qu'on vit dans la nature, mais nous sommes des esprits. Alors, à quelles lois devons-nous... quelles sont les lois qu'on doit adopter ? Qui a une pensée claire ? Il demande tout à l'heure, là, qui peut trouver une femme vertueuse, déjà à cette époque-là ? Mais c'est des machos, hein, c'était des machos à l'époque. Il y a quand même beaucoup de femmes vertueuses. Hein. Un chrétien qui a une pensée claire, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est un miracle. Hein. Une pensée perspicace, c'est quelqu'un qui a une pensée perspicace, c'est quelqu'un qui a une grande valeur, qui a une valeur immense en lui-même. Mais ça n'est pas facile, il faut l'entretenir, parce que tout repose, dans la loi, les lois de Dieu, tout repose sur des bases qui sont solides. En fait, c'est ce qui a été pensé le mieux, qui rend heureux, c'est-à-dire qui nous permet d'avancer. Si on pense avec légèreté, si on ne se donne pas la peine d'approfondir nos pensées, on risque de ne jamais atteindre nos rêves, ce qu'on désire. Et si vous pensez à un champ, ben la suite normale, c'est que vous l'acquérez. C'est ce que nous dit le proverbe 31:16. Elle n'a pas pensé à un champ en disant « Oh, elle est jolie, les belles fleurs. Ah, ça serait super si je pouvais la voir. Tiens, quelle heure il est ? Je viendrai voir demain. » Ou « Ah, puis non, demain je ne peux pas parce qu'il faut que j'aille à Carrefour. » Non, non, il faut savoir ce qu'on veut. Cette femme, elle avait un champ, elle y a pensé, elle l'a acquis. En tout cas, c'est ce que fait cette femme vertueuse. Pensez-vous qu'il en soit autrement pour un homme vertueux? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. On pourrait dire, qui peut trouver un homme vertueux? Il pense à un champ, il l'acquiert. Un homme ou une femme vertueux pense à un champ et il ne va pas laisser ses émotions ou certaines fausses évidences se distraire. Non, 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 il est vertueux. Résultat, il l'acquiert. Voilà. C'est comme ça. C'est ce que la Bible dit. Moi, j'y crois. Une personne vertueuse, c'est quoi alors? Tout à l'heure, quelqu'un a dit, comment ça s'écrit vertueux? Alors, on lui a dit, c'est parce que j'ai jamais vu ce mot, je sais même pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est un enfant, ça se comprend. Mais au moins, elle pose des questions, elle cherche à savoir. Alors, une personne vertueuse, c'est une personne qui a des qualités morales. La vertu, c'est une disposition constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Voilà ce que c'est. Alors, il n'y a pas à s'imaginer que ça peut bien vouloir dire, ça veut dire ça. C'est ce que le dictionnaire dit. Une femme vertueuse, un homme vertueux fait le bien, et le bien, on sait que ça ne vient pas du diable. C'est clair. Une personne qui a des sentiments moraux raffinés, qui a une intelligence subtile, qui a des aspirations nobles, eh bien c'est cela une personne vertueuse. C'est cela une personne vertueuse. Elle pense à quelque chose, elle se l'approprie, elle ne se laisse pas ébranler par le doute ou par... l'énergie qu'elle va devoir manifester pour atteindre son but. Non, non. Dieu nous a dotés du pouvoir de penser. Et si vous ne laissez pas vos pensées être parasitées par la peur, par le doute, par la nonchalance ou que sais-je, vos pensées seront le pouvoir de votre esprit, ouin par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? C'est clair. Vous voyez, la femme vertueuse de notre texte, elle n'a pas peur de travailler, verset 13. Le travail ne lui fait pas peur, verset 13. Elle sait qu'elle va devoir bosser pour l'acquérir, elle sait que ça ne va pas tomber du ciel, là. Bien sûr qu'il y a des miracles, mais bon, quand même Dieu nous a dit qu'on devait travailler, hein. Alors elle se lève, alors qu'il fait encore nuit, verset 15. Ça veut dire qu'elle ne traîne pas en disant, de toute façon, Dieu est le Dieu des miracles. Non, non, elle se lève avant qu'il fasse jour. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, verset 15. Elle s'occupe de toute sa maisonnée. Elle organise, toujours au verset 15, elle organise sa journée. Elle donne des tâches à ses servantes. Peut-être vous n'êtes pas de servante, mais vous avez toute une famille à gérer. En tant qu'adulte, eh bien, vous donnez, voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, tu vois, la vaisselle, etc. Elle a la foi, elle compte sur Dieu, mais elle ne reste pas sans agir. Elle agit bien. Parce que ses pensées sont disciplinées. Une femme vertueuse, c'est une femme qui cherche à faire le bien et qui s'éloigne du mal. Quelqu'un qui fait le bien, il construit. Celui qui fait le mal, il détruit. On ne détruit pas forcément en faisant quelque chose, mais on détruit, par exemple, en ne faisant rien. Ça, c'est clair. Hein? La pensée d'une femme ou d'un homme vertueux est de l'énergie active. Voilà ce que c'est que la pensée d'un homme ou d'une femme vertueuse. C'est de l'énergie. La plupart des gens, ils vivotent sans jamais atteindre véritablement leurs rêves, ni même ce que Dieu leur demande. Tout simplement parce qu'ils trouvent de la beauté dans, attention à ce que je vais dire, dans l'abnégation et dans la médiocrité. Je parlais cet après-midi avec quelqu'un qui me disait, moi j'aime pas... témoigner, j'aime pas l'évangéliser. Je dis, c'est curieux, parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est justement pour témoigner. Alors, il y a un non-sens, là. Non, vous ne trouvez pas, vous? Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, si on reçoit le Saint-Esprit et qu'on n'est pas des témoins, on n'aime pas témoigner, il y a un non-sens, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et alors, beaucoup de gens vivotent parce que justement, ils n'atteignent jamais leurs rêves, ni même ce que Dieu leur ordonne. Il nous ordonne d'évangéliser, il nous ordonne. C'est pas, on n'a pas à dire, oh, j'aime pas tellement. Non, on fait. Alors, c'est parce qu'ils trouvent de la beauté dans l'abnégation et la médiocrité. Alors, j'entends d'ici, certains ont dit, oui, Michel, l'abnégation n'est-elle pas une vertu chrétienne? Oui, mais pas que. Pas que. L'abnégation, c'est le renoncement, on le sait. Nous devons renoncer au mal. Hein? On doit renoncer au mal. Mais dans Proverbe 31:16, la femme vertueuse, elle n'a pas renoncé à son champ, par exemple, sous un prétexte ou sous un autre. Elle y a pensé, elle a fait ce qu'il fallait pour l'acquérir, elle n'a pas renoncé. Et ils pensent que, il y en a, ils pensent, oh, l'abnégation, c'est une vertu. Il faut renoncer à tout. Pour le Seigneur, Jésus. Elle n'y a pas pensé et puis ensuite renoncé. Non, non, elle l'a acquis. Comment? Eh bien, c'est simple, il nous dit, par le fruit de son travail, et pas par la force de sa pensée positive ou par sa foi. Bien sûr qu'elle a la foi. La femme vertueuse, si elle n'a pas la foi, ben, ce n'est pas une femme vertueuse. Elle a la foi. Mais c'est pas la foi qu'elle a en Dieu qui va lui donner un champ par miracle. Non, non. La femme vertueuse, l'homme vertueux, il sent que ce qu'il gagne est bon. Ce qu'il gagne. Je veux bien dire, il y a un proverbe en anglais, je ne sais pas comment ça se dit vraiment, mais ça veut dire, il n'y a pas de gain sans peine. Et ben voilà, ben c'est très juste. En anglais, ça rime. En français, ça rime moins. Mais c'est vrai, il n'y a pas de gain sans peine. Donc, elle sent que ce qu'elle gagne, c'est bon. Mais elle peine pour y arriver. C'est normal. Alors, regardez là, cette femme vertueuse. Donc, elle s'est levée avant le jour, verset 15. Et puis, la nuit, on voit encore la lumière chez elle parce qu'elle est encore en train de faire quelque chose, verset 18. Hein, c'est pas écrit sa télé est allumée ou son ordinateur. Non, non, c'est la lumière, elle bosse. Elle est encore en train de... Je sais pas, peut-être que... Elle est peut-être couturière ou je sais pas, elle fait peut-être... Vous connaissez la chanson « Je suis biaiseuse chez Paquin, je travaille du soir au matin. » elle est toujours en train de travailler. Elle travaille. Mais ce n'est pas une rêveuse, ce n'est pas une visionnaire passive. Elle recommande son sort à l'Éternel et puis elle agit. Alors il agit aussi parce qu'elle agit. Et si c'est un champ qu'elle pense, ben elle fait tout pour l'acquérir. Heureusement, il n'y a pas que des champs à acquérir, il y a d'autres choses, hein. Mais vous voyez, à la base, elle est vertueuse. À la base, c'est ça. Elle est vertueuse. Elle aime Dieu. Elle fait rien de mal. Elle s'éloigne du mal. Elle cherche le bien. Elle cherche à faire le bien. Elle n'attend pas que le bien ou les biens lui tombent dessus dans les bras miraculeusement. Elle sait qu'il y a un temps pour toute chose. Elle sait qu'il y a un temps pour prier, hein. Et puis elle sait qu'il y a un temps pour jeûner s'il le faut. Elle sait qu'il y a un temps pour se lever, hein, avant le jour. Elle sait qu'il y a un temps pour penser, pour réfléchir, il y a un temps pour acquérir ce à quoi on a pensé. Vous voyez, elle est spirituelle, c'est-à-dire pragmatique. C'est ça, être spirituel. C'est pas flap, flap, flap. Spirituel, c'est pas ça. Vous n'avez jamais enseigné que être spirituel, c'est être complètement dans les nuages et puis attendre que tout vienne de Dieu. Je n'ai jamais enseigné ça. Alors, elle ne s'appauvrit pas, elle gagne. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, il s'enrichit. La bénédiction de Dieu, c'est ce qui enrichit. Mais alors, il y en a qui s'appauvrissent et puis ils disent « Oh, mais c'est la faute des autres. » Bien sûr, c'est toujours la faute des autres. Hein. La faute des autres. Tout ce qui arrive à l'extérieur d'elle, ça a d'abord commencé en elle. C'est la pensée. Dans sa pensée, ça a commencé. Ce chant, il est utile. Ce chant... Il m'a l'air fertile, elle a touché la terre, elle n'a pas eu peur de s'en mettre sous les ongles. Elle a réfléchi, elle s'est renseignée, elle a dit « c'est accessible, je dois pouvoir y arriver ». Et puis, ensuite elle s'est convaincue, c'est pour moi, je le veux, je l'aurai. Je le veux. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit au verset 16 ? « J'y planterai une vigne ». Elle a des projets, hein, elle planterait une vigne. Elle sait pourquoi elle veut ce champ. Elle a un but, elle a une raison. C'est pas seulement je veux un champ pour pouvoir dire j'ai un champ, l'air, puis toi t'en as pas. Non. Trop de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ce que je disais au début. Trop de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils disent je veux faire la volonté de Dieu. Voilà. C'est bien, c'est très religieux, mais c'est pas bien. C'est pas être vertueux. Et, s'ils sont religieux, ils attendent que Dieu leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais. En faisant ça, il laisse des opportunités passer. En faisant ça, il laisse des bénédictions passer, et puis ils n'écoutent pas Dieu vraiment. Ils sont là, dans une espèce de nuage de spiritualité à deux balles. Ils abandonnent. L'abnégation négative par manque de cohérence. L'abnégation, c'est renoncer au mal, c'est pas renoncer au bien. Alors, nous sommes des esprits. Et Dieu nous a conçus de façon absolument merveilleuse. Je reviendrai là-dessus dimanche et j'aurai des choses à vous dire qui vont vous laisser pantois. Dieu a préparé en nous des bases, les bases les plus solides de la connaissance. C'est les bases pour qu'on mette la connaissance dessus. C'est les bases de la connaissance. Alors, ces bases, elles existent sans que nous ayons la moindre idée de son mode de fonctionnement. C'est à nous de trouver. Mais c'est génial. C'est formidable. C'est intéressant, je trouve. C'est à nous de trouver. Hier, Philippe Clerc m'a donné un vieux journal Pilote de 1961. Vous vous rendez compte, j'avais 11 ans. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait toujours une petite enquête de l'inspecteur Ludo. Qui c'est qui a connu ça, l'inspecteur Ludo? Alors c'était une petite enquête en quatre images, et puis il fallait découvrir le coupable. Mais c'était super, il fallait chercher. Et puis moi je trouvais de temps en temps, puis des fois je trichais, parce que c'était écrit en dessous la solution, mais à l'envers. Alors, mais bon, vous voyez, c'est intéressant de chercher, celui qui cherche, il trouve. Alors on peut emmagasiner une somme phénoménale de connaissances sur cette base que Dieu nous a créée, mais elle peut nous servir à rien du tout si on ne se met pas au travail avec ça. Alors vous allez dire que je suis charnel, mais bon, vous qui venez sur Internet, qui venez m'écouter, qui venez écouter mes prédications, vous savez très bien que je suis charnel, je ne suis pas que spirituel. J'ai mes petits côtés un peu, voilà, charnel. Et je vous le dis, quand je suis avec ma femme, quand elle fait les courses, quand elle va à la banque ou quand elle va à Intermarché ou comme ça, si elle n'a pas vraiment besoin de moi, je dis, ben écoute, je reste dans la voiture et puis dans mon sac, j'ai en ce moment la dernière biographie de Sylvie Vartan. Ça y est, bon, on est reparti. Et elle racontait, là, dans ce que j'ai lu, là, que comment elle s'est battue pour trouver des personnes qui allaient l'aider à monter un spectacle au Palais des Congrès à Paris, c'était dans les années 70. Personne n'avait fait ça avant, aucune chanteuse, aucun chanteur. Avant, c'était toujours des congrès. Hein, c'est des congrès d'hommes, de femmes d'affaires, de machins, de sociétés. Mais personne n'avait, aucune chanteuse n'avait eu l'idée d'aller faire un show là-dedans. C'est immense, hein, 4000 places. Et elle a trouvé des gens qui ont cru dans son rêve. Elle a expliqué ce qu'elle voulait, elle a montré ce qu'elle était capable de faire. Et elle voulait un mois de représentation devant 4000 personnes chaque soir, la mère Vartan. Avec une trentaine de musiciens, 16 danseurs, des mimes, des éclairagistes, et tout, des trucs à l'américaine, ça s'était jamais fait. Claude François, il commençait à faire avec ses Claudettes, mais c'était loin d'être le palais des congrès à l'époque. Hein. Et ça a tellement bien marché qu'il a fallu faire des prolongations. Elle a tenu 6 semaines, finalement, avec son spectacle. Alors, après ce succès, elle s'est reposée, et puis elle a voulu remonter un autre spectacle. Et tout ça, c'était pendant l'époque où elle était trompée par Johnny, où elle aurait pu se laisser glisser dans le découragement et tout. Non, elle s'est battue. 2 ans après ça, elle a voulu refaire un spectacle aussi grand, aussi extraordinaire et tout. Elle aurait pu faire appel aux mêmes financiers. Elle aurait pu demander aux mêmes personnes. Ben non, elle ne l'a pas fait. Elle a financé elle-même tout le spectacle. Et à l'époque, c'était, je lisais ça dans la biographie, 3 millions de francs. À l'époque, c'était énorme dans les années 70, 3 millions de francs. C'est géant. Avec ses propres sous, c'est-à-dire qu'elle a mis sa fortune en danger. Vraiment. Et puis, à la fin de cet article, qui est écrit par une autre personne, c'est pas elle qui écrit le livre, à la fin de cet article, elle dit, à la fin de ce chapitre, « Prendre des risques, c'est mon moteur. C'est ce qui me fait avancer. » Ça, je trouve ça fantastique. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec Dieu. Bon, je la connais, je sais qu'elle est catholique, je parlais avec elle, elle aime Dieu, mais bon, voilà quoi, on ne peut pas dire que c'est la femme vertueuse. Mais n'empêche qu'elle a des caractéristiques qui... Ça me plaît. Ça a été de nouveau un immense succès. La même chose. Vous voyez, la facilité et la perfection reposent entièrement sur le degré auquel nous cessons de dépendre de la conscience. Ouh, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que quand on est conscient... Il faut être un peu fou pour faire un truc pareil. La Vartan, avec ses petites chansonnettes. remplir le palais des congrès pendant un mois, avec 4000 personnes chaque soir, puis deux fois le samedi. Il faut être un peu inconscient, un peu fou. Quand on est conscient, on se rend compte que ça va être dur, qu'on risque d'échouer, quand on est trop conscient, vous comprenez? Alors que si nous abandonnons ce conscient-là, l'abnégation, là, il est bon. Là, elle est bonne, cette abnégation-là. Si on abandonne ce conscient-là, ce négatif, et que nous pensons en termes de foi, je ne dis pas qu'elle avait foi en Jésus, là, mais je vous parle à vous qui êtes des chrétiens. Vous dites que Dieu est tout-puissant. Hein, vous faites, qu'est-ce que vous faites de mieux que ce qu'elle a fait là, elle? Vous avez déjà rempli une salle de 4000 personnes tous les soirs avec Jésus qui est tout-puissant? Vous vous rendez compte? C'est... Bon, alors... Si nous abandonnons ce conscient-là qui nous dit « Ah, oh, il va y avoir ce problème, ça va être difficile et tout », alors si on pense en termes de foi, alors on va franchir des montagnes, alors on va marcher sur l'eau et nous serons des femmes et des hommes vertueux vraiment, avec la foi, avec le courage, avec le travail. Vous savez, plus vous pensez grand, plus vous pensez noble, plus vous pensez brillant, plus il vous est évident que l'origine de ces pensées-là dépasse vos compétences. Ça dépasse vos compétences. Et vous rendez compte que vous êtes obligé de vous entourer de personnes et vous les attirez vous-même. Vous allez leur parler, vous allez les chercher ou alors ils viennent à vous spontanément. C'est la foi, mais la foi, elle est active. Alors là, c'est ça la vraie foi. C'est là que la vraie foi se montre. Montre-moi tes actes, je verrai ta foi. Vous voyez mes frères et sœurs? Je suis tellement excité en ce moment par mes nouvelles pensées, par les pensées qu'on a en commun ici, dans la vraie communauté du Seigneur Jésus-Christ, et par ce que Dieu nous demande, et tous les signes que nous recevons, et ça me remplit de joie, mais en même temps, mon conscient me dit « Mais Michel, c'est une folie !» Michel, c'est une folie, tu es fou. Mais c'est normal, mais je vais tomber de quel côté à votre avis? Je vais arrêter d'être trop conscient, il ne faut pas. Vous savez quoi? Je ne vais pas soumettre ma pensée à l'indécision, je vais soumettre ma pensée à la constance, je vais continuer à penser à ce beau rêve et à le construire avec l'aide de Dieu et avec votre aide. C'est ça un homme vertueux, c'est ça une femme vertueuse. Je ne dis pas que je suis plus vertueux que la moyenne des ours, mais je donne l'exemple là parce qu'on est en train justement de se battre pour obtenir quelque chose. Alors, avez-vous prié? Oui. Avez-vous remis votre sort dans les mains du Seigneur? Oui. Êtes-vous séparé du mal? Oui. N'avez-vous pas peur du travail? Oui. Eh bien alors allez-y, Dieu est avec vous. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Évidemment, il va y avoir des problèmes. Mais pourquoi il va y avoir des problèmes? Pour qu'il y ait des solutions. Pourquoi il faut qu'il y ait des solutions? Pour glorifier Dieu. Hein? C'est tout? Mais attendez, c'est quand même pas bien compliqué à comprendre. Moi, je fonctionne comme ça. Quand parfois, je me sens déstabilisé, c'est parce que ça m'arrive. Hein. Des moments, je suis complètement découragé. Je dis, oh là là là. Puis alors, je pars avec ma femme. Michou, elle me remonte le moral. Il faut aller chercher en haut, il ne faut pas aller chercher en bas. Si vous avez trouvé quelqu'un de négatif qui rate tout, puis que vous allez lui demander des conseils, mais ça va être pire. Il faut aller trouver les conseils là où ils sont, les bons conseils, hein, vers les gens qui sont remplis de foi. Alors, je ne demande pas des conseils aux perdants, jamais. Je ne demande pas des conseils aux tièdes, jamais. Je ne demande pas des conseils aux peureux, jamais. Je ne demande pas des conseils aux TTTS, jamais. Parce que, non. Dieu nous a donné une intelligence et pour qu'on s'en serve. Oh, les prophéties et les machins, excusez-moi, ça fait 40 ans. Attendez, c'est quand que... C'est le 1er juin, c'est mon anniversaire de conversion. C'était en 68 que je me suis converti. Ça fera donc que 40... depuis le temps que je connais les pentecôtistes, croyez-moi, les prophéties, excusez-moi, pardonnez-moi, mais bon, voilà. C'est terrible. Moi, je préfère travailler avec mon intelligence, renouvelée par le Saint-Esprit. Je choisis à qui je demande conseil. C'est pas mal d'écouter ceux qui savent. C'est pas humiliant d'écouter quelqu'un qui sait plus que vous. C'est pas humiliant, c'est enrichissant. Une femme vertueuse, un homme vertueux est intelligent. Il n'est pas seulement instruit. Alors, à quoi pensez-vous? Que pensez-vous que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire avec votre foi, là, vous qui écoutez sur Internet? À quoi vous pensez? Moi, j'ai connu des gens, quand ils étaient jeunes, ils voulaient faire ci, ils voulaient faire ça, et puis ils passaient des nuits de prière. Moi, j'étais impressionné. Une nuit de prière, moi, ça me casse les pieds. Quand je vais en Afrique, ils adorent ça, les nuits de prière. Oh, Nicolas, il le sait, je déteste ça. Ça me paraît, on répète tout le temps les mêmes choses. Au bout d'un moment, moi, je ne sais plus quoi demander. Mais alors, là, j'avais des amis comme ça qui priaient. J'étais impressionné. Je disais, oh là là, ils sont plus spirituels que moi. Ils sont où aujourd'hui, tous ces prieurs? Dans leur HLM. Ils sont plombiers, bien. C'est un beau métier. Ben voilà, j'aime bien les plombiers, mais bon, voilà. Ils voulaient être des grands serviteurs de Dieu. Enfin, ils ont prié. Il faut agir. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire avec votre foi? Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire avec votre amour pour Dieu? Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire avec votre amour pour les autres, pour les perdus, pour les sauvés, pour les malades, pour les fous, qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire? Ce que vous pensez, faites-le. Amen. Merci Jésus. Amen.